Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à notre émission Regards sur le monde. Diane, nos invités d'aujourd'hui.
Oui, on reçoit M. Jérôme Plante, qui est président du comité des usagers de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Et en deuxième partie, nous allons recevoir M. Pascal Gauvert, qui est éditeur aux éditions René Clairon, Poésie et Nouvelles.
Regard sur le monde à Canal M, une émission qui se veut fédérative sur ce qui se passe au sein de la déficience visuelle, ceux qui composent cet univers. Et nous recevons en studio M. Jérôme Plante, qui est président du comité des usagers dans le cadre du CIS Montérégie Centre, mais pour l'Institut Nazareth et Louis Braille. Bonjour M. Plante.
Bonjour M. Poulin.
Merci de venir, de vous déplacer et venir nous voir.
Bien, ça me fait énormément plaisir.
Qu'est-ce que c'est que le comité des usagers?
Et pas facile à dire, Michel.
Avec mon dentier, là, c'est... Mais enfin, qu'est-ce que c'est que le comité des usagers et quel est son rôle?
Bien, malgré votre dentier, vous avez une voix radiophonique et une diction tout à fait remarquable.
Merci.
Pour le souligner. Donc, en fait, les comités d'usagers, de façon générale, ont été créés par des dispositions de la loi sur les services de santé et les services sociaux, qui est la loi qui régit tout ce qui se passe au Québec en matière de services de santé, services sociaux, tout ce qui est géré par le ministère du même nom. Et dans cette loi-là, c'est une bible, cette loi. Les comités d'usagers existaient bien avant de devenir obligatoires dans la loi. Des établissements ont commencé à en créer dès les années 70-80, des comités à l'époque de bénéficiaires pour défendre les droits des usagers. L'Institut en avait un depuis les années 90, d'ailleurs. J'ai pas l'année exacte que ça a commencé à exister, mais c'est un groupe d'usagers qui avait décidé de se regrouper pour former le comité. Et ça existe, comme je vous dis, de façon obligatoire dans la loi depuis la réforme qu'il y a eu en 2004-2005, à l'époque où le ministère était géré par Philippe Couillard, qu'on connaît bien. Donc, ce sont les articles 209 à 212 de la loi sur les services de santé et les services sociaux qui gèrent les comités d'usagers. Je ne vais pas rentrer dans toutes les technicalités de la loi, mais grosso modo, un comité d'usagers est là pour être l'interface entre les usagers, le terrain, et l'établissement en haut. Et donc, autant le comité des usagers sert de porte-parole des usagers auprès de l'établissement. Autant l'établissement discute effectivement avec le comité d'usagers pour voir effectivement comment les services pourraient être améliorés et comment on pourrait faire pour mieux desservir les usagers. Le comité est vraiment là pour s'assurer que les usagers reçoivent les services qu'ils ont droit pour répondre à leurs besoins de réadaptation dans les délais qu'ils devraient avoir accès à ces services-là et selon là, les technicalités, les procédures qui doivent être appliquées et à faire en sorte que ce soit le mieux possible pour l'usager, autant dans le service qu'il reçoit que dans la façon de faire cette prestation de service.
Et on parle là de bénévoles. Les gens qui sont au sein de ce comité-là,
oui,
sont des bénévoles.
Ce sont des bénévoles, oui. Malgré le fait que ce soit maintenant une obligation de la loi, c'est pas comme d'autres comités ou organisations qui sont créées là, dans le cadre d'établissements, par exemple, qui peuvent être des gens qui peuvent être payés pour siéger à ces instances-là. Dans le cas des comités d'usagers, ce sont des bénévoles. Ce sont par définition, au départ, soit des usagers eux-mêmes qui siègent là, ou ça peut être, au sens large, des gens qui sont intéressés à la bonne prestation des services, au mieux-être des usagers là, dans toutes les sphères dans lesquelles ils reçoivent des services de réadaptation. Autrement dit, ça peut être n'importe qui a un intérêt du moment que ce n'est pas un employé de l'établissement.
D'accord.
Ça peut représenter combien de personnes sur ce comité-là environ?
Ben, en fait, année après année, l'Institut dessert environ, je dirais, 4000 usagers. Parfois moins, parfois plus. La clientèle est généralement en augmentation. Et dans le fond, là, je parle de ceux qui reçoivent des services et qui sont donc comptabilisés à chaque année, qui sont comptabilisés dans la dernière année puisqu'ils ont reçu des services. Mais c'est sûr qu'au sens large, des usagers, il y en a beaucoup plus. On avait déjà parlé d'au moins 6 000 usagers. On sait que dans la région de on sait qu'au Québec, selon les enquêtes de l'Office des personnes handicapées du Québec, on parle d'environ, si je me souviens bien des chiffres, environ 100 000 personnes qui ont une déficience visuelle. Là-dessus, ça inclut tous les niveaux de cette déficience visuelle-là, sachant quand même que près de 90 % de ces gens-là ont quand même une certaine perception visuelle. Mais toutes ces personnes-là, du moment qu'elles sont reconnues comme ayant une déficience visuelle au sens de la loi, là, je parle surtout du décret des aides visuelles de la RAMQ, je parle surtout de toutes les dispositions gouvernementales au sens large, pourraient recevoir, s'ils en font la demande, des services d'un centre de réadaptation, dans ce cas-ci de l'INLB. L'INLB couvre le territoire de Montérégie au complet, ainsi qu'une petite partie du territoire là, de l'Estrie depuis la restructuration qui a eu lieu en 2015.
Depuis la réforme Barrette.
Oui, ainsi que Montréal et Laval. Et on parle de déficience visuelle et il faut préciser que pour certains services surspécialisés que l'INLB offre, par exemple en informatique adaptée, l'INLB est appelé à donner du soutien aux intervenants dans d'autres centres de réadaptation partout dans l'ouest du Québec. Ça veut dire que pour ce genre de service-là, des intervenants de l'INLB peuvent être appelés régulièrement à se déplacer, là, par exemple, jusqu'en Abitibi.
Qu'est-ce que c'est vos dossiers prioritaires? Puis en fait, comment vous faites pour les cibler, ces dossiers prioritaires?
En fait, présentement, nos dossiers prioritaires, c'est surtout par rapport, je dirais, à certains services de réadaptation dont on avait des difficultés d'accès. Et d'ailleurs, justement, on discute beaucoup avec l'établissement à savoir comment on pourrait rendre plus facile l'accès à certains services, par exemple en basse vision, où pendant longtemps, il y a eu des délais importants pour obtenir un rendez-vous avec un optométriste. Je comprends que le problème ne venait pas seulement là de par exemple d'un problème de procédure ou d'un problème d'accès proprement dit, mais ça pouvait être aussi parce qu'il manquait d'optométristes ou parce que les optométristes à contrat offraient pas suffisamment d'heures. Bref, il y a toujours plusieurs problématiques dans ce genre de situation là. Mais donc on a eu un problème pendant longtemps d'accès aux services en basse vision. Autant c'était trop long d'obtenir un rendez-vous, autant par exemple le système téléphonique, c'était trop long pour pouvoir parler à quelqu'un pour obtenir le rendez-vous ou le faire modifier. Donc, il y a eu des améliorations en informatique. Ça, c'était un gros os pour beaucoup d'usagers pour obtenir des services, l'accès aux services en informatique adaptés. Souvent, les usagers souhaitaient avoir des services quand même assez rapidement parce qu'on s'entend qu'une personne qui est aux études ou qui travaille et que son ordinateur, tout à coup, ne fonctionne plus ou que sa revue d'écran, tout à coup, n'est plus fonctionnelle comme elle devrait. On s'entend que c'est un problème qui doit être réglé rapidement. Ou par exemple, l'adaptation d'un nouveau milieu de travail parce que l'usager vient de se trouver un nouvel emploi, il faut adapter le milieu de travail. Il y avait des délais que les usagers trouvaient indus. L'établissement nous disait « on respecte les délais du plan d'accès du ministère de la Santé, il n'y a pas de problème ». Mais ce n'était pas notre avis et ce n'était pas non plus l'avis de certains gestionnaires. Et puis, on a une très bonne écoute de l'établissement à l'effet de et améliorer l'accès et trouver des solutions. On a eu des problèmes aussi par rapport à la procédure pour obtenir un nouveau service parce qu'il faut quand même rappeler aux usagers qui nous écoutent que là, lorsque ça fait 3 mois que vous, et plus que vous avez eu votre dernier service, vous devez appeler au poste 216 qui est accueil, évaluation, orientation à l'INLB. Dans le fond, c'est de l'admission, là, pour, dans le fond, faire repartir votre dossier dans les, entre guillemets, méandres administratifs un peu du système. Pour que ce soit traité et puis qu'on vous assigne un intervenant par rapport au service que vous devez avoir. Et souvent, autant la prise en charge prenait du temps, selon les usagers, autant ce que les usagers déploraient, c'était le manque de rétroaction par rapport à l'établissement. Donc, est-ce que mon dossier s'est rendu au bon département? Est-ce qu'il est en traitement au bon département? Où est-ce qu'il en est, mon dossier? Je le sais pas, personne m'informe. Et tout à coup, alors que j'ai plus d'informations, mais tout à coup, on m'appelle et là, on me pose des questions. Donc, parfois, les usagers se sentaient un peu abandonnés dans cette procédure qui est appliquée de façon plus systématique depuis la restructuration. Mm-hmm. La procédure existait avant. Le plan d'accès date d'il y a 10 ans, et les procédures qui en ont découlé datent pas mal de la même époque, mais sont appliquées de façon plus systématique depuis la fusion. Et ça créait de l'inconfort. Donc,
en tout
on
cas,
travaille
y a,
là-dessus.
Il y a une chose qui est claire, c'est que vous connaissez très, très bien votre dossier, Monsieur le Président du Comité des usagers. On va prendre une petite pause musicale et on est de retour avec notre invité, Jérôme Plante.
Luce dell'est brilla in te, nel tuo sguardo senza età, la dolcezza e verità, armonia profonda, c'è un mistero dentro te. Che più grande di ogni idea e va oltre la realtà come un'onda di marea, da cui nasce il canto.
Tu sei la voce
che io sento,
la voce che sento
nel deserto intorno a me,
nel deserto intorno a me.
Sei l'antidoto all'assenzio dei miei giorni fragili, e per questo adesso
io canto.
Per te
De retour à Regards sur le monde sur Canal M avec notre invité, M. Jérôme Plante, président du comité des usagers de l'Institut Nazareth et Louis Braille. M. Plante, pour avoir assisté déjà à une assemblée générale annuelle du comité des usagers, vous avez une très grande participation de la part des usagers.
Oui, les gens sont présents et heureusement qu'ils sont présents. Encore faut-il préciser que, étant donné que parmi la clientèle de l'INLV, grosso modo, les deux tiers sont des personnes aînées, c'est pas quelque chose de facile de déplacer ces gens-là en masse, disons. Je vous dirais, puisqu'à chaque année, moi, j'appelle personnellement beaucoup de gens, beaucoup de nos usagers, de leurs proches, tout ça. Et par les années passées, même avant qu'on les mobilise aussi autant personnellement qu'on essaie de le faire maintenant, je vous dirais que déplacer notre clientèle, il y a beaucoup de raisons pratico-pratiques qui font que ça peut être plus difficile. Et puis, évidemment, pour les plus jeunes, il y a toujours des problématiques, comme par exemple le fait que les étudiants, les travailleurs, au-delà de leurs propres services qu'ils veulent recevoir, vu qu'on parle ici de clientèle, entre guillemets, captive, comme on dit souvent dans le réseau, donc autrement dit, des gens qui n'ont pas vraiment le choix d'être usagers, c'est sûr que souvent, beaucoup de ces gens-là, un coup qu'ils ont obtenu le service qu'ils veulent recevoir, et à la limite, au-delà d'une démarche personnelle de déposer une plainte ou une insatisfaction, s'ils sont pas contents des services qu'ils ont reçus, souvent ces gens-là ne sont pas intéressés nécessairement de s'impliquer de façon plus importante dans le comité et de le faire avancer. Et à la limite, je peux les comprendre, surtout avec la complexité croissante du réseau de la santé. D'ailleurs, j'en profiterai pour dire, je parlais de plaintes et d'insatisfaction, le comité, une bonne partie de notre rôle plus pratico-pratique au départ, c'est de gérer, c'est d'accompagner les usagers dans le dépôt de plaintes et d'insatisfaction, surtout d'insatisfaction, là, auprès de l'établissement. On les accompagne auprès des bonnes instances pour traiter leur insatisfaction ou leur plainte. On est là pour les aider à chaque étape du processus, les aider à leur dire c'est quoi la prochaine étape, à qui ils doivent parler, qu'est-ce qu'ils doivent faire, quel document qu'ils doivent fournir si c'est le cas, les procédures applicables, etc. On va les aider dans les recours. On prendra pas leur place, on fera pas les démarches à leur place et on leur dira pas quoi dire ou quoi faire au sens strict. Mais on va leur expliquer. C'est ça, on va leur guider, les expliquer quelles sont les étapes qu'ils doivent suivre et on va être là pour les aider et les soutenir dans la démarche. Et c'est quelque chose d'important. Donc, un des gros défis, pour revenir à votre question, je crois que dans les prochaines années, ça va être la relève. Et ça, c'est le même problème partout, hein, autant dans le communautaire que dans le réseau de la santé. Moi, je suis vice-président au comité des usagers du Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Centre, duquel relève maintenant l'INLB depuis la fusion. Et je dois dire que dans d'autres comités, on vit cette problématique-là. Et pour avoir été impliqué longtemps dans le communautaire, je peux vous dire également que la relève, ça a toujours été quelque chose de parfois quand même assez complexe, surtout dans un cas comme le nôtre. Mais je pourrais quand même vous dire que par rapport à ce que je vois ailleurs, ce que j'entends ailleurs, notre comité a une très, très, très bonne vitalité, un très bon dynamisme, ce qui ne veut pas dire que dans les prochaines années, la relève ne sera pas un défi qui va falloir relever, parce qu'il va falloir intéresser les gens à s'impliquer, comme je vous disais tantôt, au-delà d'une cause personnelle ou au-delà d'une revendication ou d'un accès à un service en particulier, pour travailler, même si ça semble parfois bien obscur pour beaucoup d'usagers, l'impact qu'ils peuvent avoir auprès d'une structure que beaucoup considèrent énorme, même si parfois ça peut sembler obscur, les gens doivent se rappeler et considérer, c'est ce que je leur dis à chaque assemblée générale, que nous avons un pouvoir de faire changer les choses, d'améliorer les choses auprès des instances, et que ce pouvoir-là, on doit le faire valoir, et il faut faire comprendre aux gens qu'une partie de ce pouvoir-là, c'est d'aller s'impliquer dans des comités comme le nôtre pour faire avancer les choses auprès des instances. Le mot à la mode dans le réseau, c'est partenariat, et ça marche. Faut le dire.
Monsieur Plante, vous nous parlez de relève et que vous êtes impliqué depuis très longtemps, mais vous êtes quand même un jeune homme. Vous avez quel âge?
J'ai 29 ans présentement.
Vous êtes impliqué depuis 8 ans?
Oui, ben je suis impliqué au comité des usagers depuis 8 ans, oui. Au comité des usagers du Centre intégré depuis près de 3 ans maintenant.
Mais qu'est-ce qui fait que Jérôme Plante, à 29 ans, s'implique de cette façon?
Ah, puis avant ça, j'ai une longue feuille de route dans le communautaire qui a commencé avant ça. J'ai été au RAM dès 2008, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, au RAC pendant 2 ans, sur d'autres CA aussi, Fondation des aveugles du Québec, Sacre-Ville-Marie, etc. Pourquoi? Mes parents sont non-voyants. En fait, ma mère ne voit pas du tout, mon père voit un peu. Mes parents ont connu l'époque, mes parents ont été scolarisés en école spécialisée, en pensionnat à l'époque. Mes parents ont connu l'époque des débuts de la mobilisation des personnes handicapées en général et des personnes handicapées visuelles. Les débuts du RAC et du RAM surtout. Mes parents ont été beaucoup inspirés par ça et même si eux se sont retirés de tout ça il y a très longtemps pour s'occuper d'une grande famille dont je suis l'aîné d'une famille de 7 enfants. Disons qu'ils m'ont quand même inculqué des valeurs de solidarité et puis de, je dirais, d'importance de changer les choses à ma petite échelle que je pouvais être capable de le faire. Ça, couplé à mon intérêt très tôt pour tout ce qui était sciences politiques, qui a entre autres été énormément alimenté par l'inspiration d'un personnage qui nous a quittés très récemment, M. Landry. Bernard Landry, que j'ai rencontré à l'Assemblée nationale à l'époque et qui m'a beaucoup inspiré dans mon engagement à vouloir et étudier en sciences politiques ce que j'ai fait et vouloir m'impliquer dans le communautaire et dans le comité, dans des comités pour pouvoir faire changer les choses.
Et je comprends aussi que vous êtes non-voyant de naissance également.
Tout à fait, tout à fait. Mes implications ont toujours été une affaire de grande conviction et j'ai toujours pensé que, et au niveau des personnes handicapées visuelles et peut-être au niveau plus général, je pense qu'à notre petite échelle, si on a des convictions et qu'on les défend, on peut améliorer les choses en partant du particulier vers le général et je pense que ça m'a toujours animé très profondément. Et oui, je pense que c'est pour ça qu'au départ, j'ai commencé à m'impliquer puis le reste en a découlé par la suite. J'ai même été impliqué dans des instances étudiantes, l'Association des étudiants handicapés de l'UQAM, qui malheureusement n'existe plus, faute de relève, quand je parle de problèmes de relève. J'ai été le dernier président de cette association-là. Et ça me déchire toujours le cœur de parler de ça aujourd'hui, de dire qu'on a dû mettre la clé dans la porte. C'était pas de gaieté de cœur. Puis j'ai des collègues à l'UQAM encore aujourd'hui qui me disent... On devrait essayer de la repartir, puis je leur dis, je suis bien prêt à vous aider, mais voici les défis. Et même, j'ai été sur l'exécutif de mon association facultaire pendant quelques mois. Donc, c'est vous dire à quel point je trouve ça important, en plus des études, de m'impliquer dans ma communauté et de défendre des choses qui me semblent importantes, très importantes.
Il nous reste à peine une minute, M. Plante, c'est extrêmement intéressant. Quels sont vos projets d'avenir?
Ben, j'ai fait mon bac en sciences politiques. Je fais un certificat en histoire présentement, un autre domaine qui m'intéresse beaucoup. J'ai déjà pensé travailler là-dedans, mais en tant que non-voyant, c'est plus compliqué. Je pense que vous comprendrez assez bien pourquoi. Donc, j'aimerais travailler soit dans le communautaire ou dans le domaine politique. Je ne détesterais pas. Pas en politique active, mais plus dans la fonction publique, dans l'administration. J'ai fait... mon bac en sciences politiques, spécialisation administration publique, gestion publique, donc c'est vraiment ça qui m'intéresse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'Institut, quand je suis au comité, je parle beaucoup de la structure. Je l'ai appris, la structure, je l'ai intériorisée. Et donc, parallèlement à mon certificat que je fais, je me cherche un emploi de façon active également et j'ai fait plusieurs entrevues et je continue d'en faire. Donc, j'espère bien que ça va débloquer éventuellement vers un emploi dans un domaine qui va beaucoup
qui vous
m'intéresser.
Passionne.
On vous le souhaite énormément, Jérôme
c'est
Plante.
C'est très inspirant, Jérôme.
Vous êtes très, très inspirant.
Je vous remercie beaucoup.
Merci d'être venu à notre micro, Jérôme Plante, président du comité des usagers de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Alors voici notre volet information avec nos petites nouvelles. À partir de janvier, la marque de shampoing Herbal Essence commercialisera une nouvelle gamme bio avec des repères spécifiques pour les non et malvoyants. Alors, comment différencier un flacon de shampoing d'après-shampoing ou tout simplement de gel douche lorsqu'on est aveugle ou malvoyant? Alors, cette problématique, Herbal Essence s'y est attaquée. Donc, à partir de janvier 2019, la nouvelle gamme de la marque d'hygiène capillaire Bio Renew intégrera au sein de son design des marqueurs en relief dans le bas des bouteilles en plastique. Les bouteilles de shampoing comporteront 4 traits verticaux en bas de la contre-étiquette, tandis que celles de l'après-shampoing disposeront de 2 lignes de points. C'est à une personne qui s'appelle Soumaira Latif de la filiale de Procter & Gamble à qui on doit cette initiative. Employée depuis 18 ans dans le groupe, la consultante spéciale pour le design inclusif est elle-même malvoyante. Alors, elle mentionne qu'elle avait l'habitude de mettre un élastique autour de sa bouteille de shampoing ou du scotch tape, enfin du ruban adhésif, pour l'après-shampoing, pour s'y retrouver. Alors, désormais, la distinction se fait dès la prise en main et n'implique aucun prérequis à l'utilisateur. À travers le monde, il y a 253 millions de personnes qui sont touchées par des problèmes de malvoyance ou de cécité. Le géant chinois du e-commerce a développé une technologie permettant aux personnes atteintes de déficience visuelle d'utiliser son site. En effet, l'accessibilité des nouvelles technologies aux personnes handicapées est l'un des chantiers majeurs de l'univers de la technologie dans les prochaines années. Le géant du e-commerce Alibaba fait partie des acteurs qui aujourd'hui prennent le sujet à bras-le-corps. Il propose aujourd'hui une technologie simple et abordable permettant d'accéder à son site e-commerce pour des personnes atteintes de troubles de la vue. Alors, l'entreprise a mis 15 milliards de dollars sur la dalle pour développer son système et a travaillé en partenariat avec une université. Alors, ça consiste en une feuille de silicone posée sur l'écran du smartphone appelé Smart Touch. Dans cette dernière, 3 boutons de chaque côté sensibles à la pression. Alors, ça permet d'accéder aux fonctions principales du site web Alibaba, comme confirmé ou page précédente. Les boutons sont en braille pour faciliter l'interaction et pour éviter toute action faite par erreur. Smart Touch demande un double tap afin de valider chaque commande. Alors voilà pour nos nouvelles pour cette semaine.
Savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison, ah, c'est toujours toi que l'on blesse. C'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse. Toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon. Et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. La faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois. En elle je porte ma croix. Et de leur nuit, ma nuit se fonde. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison
que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison.
De retour à Regards sur le monde, à Canal M, pour cette deuxième partie de notre émission, nous recevons M. Pascal Govart, qui est éditeur aux éditions René Clairon, Poésie et Nouvelles. Bonjour, M. Govart.
Bonjour.
Vous avez édité un collectif de haïku, comme ça, comment on dit ?
On dit haïku.
Haïku, qui s'appelle le haïku à la lumière du braille. Qu'est-ce que c'est que le haïku ?
Ah, le haïku... Je pourrais vous faire une formation, puis passer 3 heures à vous l'expliquer. En fait, c'est une poésie d'origine japonaise. Ça a été popularisé au Japon à partir du XVIIe siècle. Et le nom haïku vient d'un poète qui s'appelle Shiki, qui a inventé le nom. Ce monsieur est décédé au début des années 1900, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est un art qui est relativement récent en Occident et qui a été tellement réutilisé à toutes les sauces qu'on se l'est tellement approprié qu'aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à parler d'une poésie d'origine japonaise plutôt que de la poésie japonaise. Je n'oserais pas dire qu'on fait de la poésie japonaise. Le haïku occidental, ça n'a plus grand-chose à voir avec... Le haïku traditionnel.
Qu'est-ce que ça a de particulier, le haïku,
en fait? Alors, le haïku, c'est une poésie brève. C'est un tout petit poème, c'est un concentré de saveurs, de quelques mots seulement. Généralement, on essaie de ne pas dépasser 17 syllabes. Et ces petits poèmes doivent provoquer de l'émotion ou de la surprise. J'aime pas dire que c'est comme une photo polaroid, mais parfois, il y a des gens qui le définissent comme ça, comme un instantané, un moment présent qu'on veut partager. Il faut dire que chez les Japonais, le haïku est un art qui est très sensuel, donc il fait appel à tous les sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, le goût. Et normalement, le haïku doit être très riche. Ce qu'on lit beaucoup, si on s'intéresse à des groupes sur Facebook, par exemple, ou beaucoup de livres qui sont produits, c'est beaucoup des gens qui font de l'observation. Moi, personnellement, le haïku que j'appelle le haïku d'observation, où juste on décrit une situation, mais sans y mettre l'émotion ou tout le ressenti de la situation, c'est pas le genre de choses que je publie. J'essaye d'aller dans les choses qui sont plus touchantes, qui amènent de la surprise. Si vous voulez, je peux vous donner un exemple d'un haïku qu'il y avait dans le livre, le haïku à la lumière du braille. Comme le haïku est un art de la tradition orale, il faut qu'il puisse se dire en une seule respiration. Et en général, on le répète 2 fois pour en comprendre toutes les subtilités. Je vais m'exécuter de cette façon-là. Maison de retraite, à chaque rire, elle donne un nom. Maison de retraite, à chaque rire, elle donne un nom. On voit ici que maison de retraite est un élément qui ne va pas avec le reste de la phrase, pris hors contexte, évidemment. Et tandis que la phrase « à chaque rire, elle donne un nom » n'a pas plus de sens pris séparément non plus. Mais dès qu'on met ces éléments ensemble, on va chercher une autre dimension et un autre élément de réflexion. Ici, maison de retraite, à chaque rire, elle donne un nom. On imagine une vieille dame ou... probablement aveugle ou malvoyante, en perte d'autonomie. Et puis, elle est dans une maison de personnes âgées et elle recrée autour d'elle un environnement, elle recrée autour d'elle un univers et en nommant les choses par le rire. Donc,
en fait, c'est un poème très synthétique.
Très synthétique, mais pas outrance. On va dire ce qu'on a à dire. On va plutôt prendre le temps de trouver les bons mots plutôt que d'être concis. Le but n'est pas d'être concis, le but est de toucher.
Le livre est traduit en arabe, en anglais, en français. Quand on lit du haïku, on mentionne dans la préface que nous allons avoir un choc de 189 lignes transformées en 63 coups. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement?
Bon. C'est une très belle préface de Georges Voisset. D'abord, pourquoi 63, le 63 haïku qui constitue ce recueil, c'est pas innocent.
C'est pas un hasard.
Non, du tout. On a choisi le 63 à cause des 63 signes du système Braille. 64 si on compte l'espace. Donc, c'était toute la symbolique. Maintenant, quand on parle de coups, on s'attend ici, évidemment, à ce qu'on parle de punch. Mais ce n'est pas des punch, c'est des coups de foudre, c'est des coups de fouet, c'est des...
Des coups d'émotion.
Oui, tout à fait, des coups de foudre aussi.
Et pourquoi vous vous êtes intéressé particulièrement à ce thème? Pourquoi vous vous êtes intéressé au haïku? Qu'est-ce qui vous a amené là?
Au haïku ou à la thématique du livre?
Les deux.
Qu'est-ce qui m'a amené dans le haïku? J'ai toujours été intéressé par le court. J'ai fait des nouvelles, ça fait 25 ans que j'écris des nouvelles, j'ai publié plusieurs fois, participé à différents concours, j'ai fait des courts-métrages, et puis j'ai été éditeur aussi trois fois, c'est la troisième fois. Je ne sais pas pourquoi, mais à un moment donné, j'ai édité des catalogues pour des collectionneurs de monnaie. Donc j'ai fait ça pendant 6-7 ans. En français, en anglais, on vendait partout aux États-Unis, mais sans rapport. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, j'ai jamais essayé la poésie. Et de toutes les poésies, j'ai trouvé que celle qui me ressemblait le plus dans le style, dans la façon d'écrire, dans sa logique, son émotion et sa concision, c'était le haïku. Maintenant, pourquoi le haïku à la lumière du braille et le thème de la cécité? J'ai participé à un concours l'année passée, où il fallait être en binôme avec une personne non-voyante ou une personne en mesure d'écrire en braille. J'ai la chance que la cousine de ma conjointe soit une enseignante spécialisée, qu'elle aide des enfants et qu'elle traduise des manuels. Elle a une machine à sa disposition aussi, donc c'est Sandra qui m'a aidé à participer à ce concours, mais il n'était pas possible de participer sans fournir le poème en noir et le poème en braille. Et il fallait envoyer le tout à une association qui s'appelle La Culture de l'Art, qui est en France. Et La Culture de l'Art avait organisé ce concours conjointement avec le musée Louis Braille à Couvray, en France. J'ai participé à ça et je me suis distingué. Et le monsieur qui organisait ce concours, en fait, c'est un concours qui, à l'origine, avait été pensé par Christiane Ranieri. Pour ceux qui connaissent, c'est quand même une sommité dans le domaine du haïku. Elle était à l'origine du projet, mais c'est avec Joël Hardy que j'ai travaillé surtout. Et Joël m'a approché, m'a dit « T'es-tu le même Pascal Govartz que les éditions René Clairon ? Parce que nous, on est à la recherche d'un éditeur. » Et donc... De fil en aiguille, on en est venu à tisser des liens et j'ai trouvé son projet très intéressant. J'ai toujours, chez René Clairon, cherché des projets qui sortaient de l'ordinaire. Ça ne m'intéresse pas de publier un recueil de poèmes mis dans l'ordre des saisons, comme tout le monde fait. Là, je cherche des projets, je cherche des choses touchantes. On a publié sur le deuil, on a publié toutes sortes de choses différentes. Et j'étais très touché par son projet. Et la façon dont il voulait le promouvoir et tout, La Culture de l'Art a reçu le label de l'année européenne de la culture en 2018. Donc ça a donné une belle plateforme aussi, une belle visibilité au livre. Et pour aller plus loin avec les contacts qu'avait Joël, on s'est permis de faire des traductions. On a été faire une traduction en anglais, une traduction en arabe aussi. Et puis aujourd'hui, ben, dans toute la francophonie et le monde arabe, on peut faire rayonner ce thème que j'ai finalement trouvé très touchant. Il ne me touche pas personnellement parce que je n'ai pas d'amis. J'ai un frère qui est handicapé, mais il a ses yeux. Mais je veux dire, j'ai trouvé l'expérience intéressante et puis d'être rentré dans ce monde-là puis d'avoir été obligé de me familiariser avec le braille et tout cet univers, mais ça enrichit beaucoup la publication.
Dans toute cette aventure, est-ce que vous avez une anecdote, une expérience qui vous a marqué plus qu'une autre?
Oui, il m'a permis de rencontrer Michel. Non. J'ai été sollicité pour faire la deuxième édition, mais j'ai refusé de la faire. Ça a été un projet extrêmement demandant, surtout les traductions. En tout cas, ça m'a permis d'apprendre quelques mots en arabe et de me rendre compte que c'était plus compliqué d'écrire l'arabe que d'écrire le braille. Vraiment.
On va passer à une pièce musicale, puis on va demeurer dans le ton parce que c'est Eric Clapton avec Tears in Heaven. Mais avant d'aller à la pièce musicale, est-ce que vous auriez un autre haïku pour nous?
Oh, peut-être ah, oui, même oui. Un ou deux.
Un ou deux, allons-y.
Ce qui est le fun, c'est que dans ce livre-là, on a été tout en finesse et avec beaucoup d'humour, parler d'un sujet qui peut avoir l'air difficile ou dont les gens ont peut-être plus de difficultés à parler parce que c'est... On s'est assimilé peut-être à un handicap, donc les gens sont plus gênés ou d'aborder ces sujets, mais tout au contraire, les auteurs qu'on a eus ont pris ça avec beaucoup d'humour. Je vous en donne ici deux, trois que j'avais sélectionnés. On voit très bien ici dans la première situation une personne qui n'est pas malvoyante ou non-voyante, mais qui joue le rôle et essaye avec empathie de comprendre la situation. Les yeux fermés, traversant le jardin pour voir. Les yeux fermés, traversant le jardin pour voir. Et une autre qui est d'une une Québécoise, c'est là, Monique, je crois, le voisin aveugle, elle élève la voix pour lui parler. Le voisin aveugle, elle élève la voix pour lui parler. On voit tout le malaise, on voit tout le malaise. Là. Et puis, une petite dernière, celle-là, elle est de moi. Je ne vais pas sélectionner parce qu'elle était de moi, mais parce qu'elle amène un autre point de vue. C'est le revers de la médaille, cette fois. Jeune aveugle, elle est grande comment, la tour Eiffel? Jeune aveugle, elle est grande comment, la tour Eiffel? Voilà. Time can break your heart.
Toujours avec notre invité, M. Pascal Govart, qui est éditeur aux éditions René Clairon, Poésie et Nouvelles.
M. Govart, vous vous intéressez donc à la poésie japonaise. Est-ce qu'il y a d'autres formes de poésie japonaise?
Oui, oui, c'est très riche. Hein. Il y a le tanka, qui est une forme un peu plus longue, plutôt plus de syllabes. Donc, c'est comme ça a sensiblement la forme d'un haïku, mais on lui rajoute deux lignes de 14 syllabes, deux lignes de 7 syllabes, donc 14 syllabes de plus, 31 en tout. Il y a le haibun, qui est une autre forme que dans laquelle j'écris de temps en temps, et j'ai publié récemment aussi un recueil de haibun. C'est donc un mélange de prose et de haïku, où le haïku vient comme une charnière dans le texte, nous montrer les non-dits, nous montrer des éléments qui sont hors du récit et qui nous font réagir sur le récit. C'est vraiment bien fait. Je parlais tantôt de projets spéciaux, que j'aimais ça, faire des choses inordinaires. J'ai publié avec Huguette Ducharme, une auteure de la région de Saint-Hyacinthe, le livre « L'ours au sans nom ». C'est un recueil de haïbon, prose et haïku mélangés. Qui a été fait sur la thématique du deuil. Cette dame-là, vraiment une dame formidable, un cœur en or, là, elle accompagnait des jeunes enfants endeuillés et elle travaillait avec l'Association des Amis du Crépuscule. Elle a été bénévole pendant des années pour cette association et donc elle réconfortait, elle accompagnait, elle aidait des enfants à passer à travers ces épreuves-là. Et dans ce livre-là, elle a raconté ses expériences et ses rencontres. Mais j'ai jamais voulu faire dans le mélodrame. Jamais, 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 jamais. Donc, il n'y a rien dans tout ce que j'ai publié ou écrit moi-même qui soit mélodramatique. Au contraire, le haïku puis la poésie d'origine japonaise, ce sont des poésies qui sont faites pour réjouir ou faire du bien, pour apaiser, pour faire sourire, mais pas pour rendre triste. C'est jamais la poésie japonaise, en tout cas dans la définition que je lui donne, si au moins on peut s'entendre sur celle-là, c'est que c'est pas un exutoire pour l'auteur. Ça ne doit pas être ça.
Vous avez d'autres projets spéciaux aussi?
J'ai publié aussi un carnet de voyage avec Hélène Fang, qui est une auteure et une éditrice en Europe. Elle a une revue aussi. Et elle est partie faire deux voyages en Inde et elle a raconté un de ces deux voyages. Et elle n'avait pas le goût de s'éditer elle-même et elle cherchait un éditeur, elle cherchait des pistes. Puis ce qu'elle voulait faire, personne ne voulait faire ça. C'était un mélange de haïku, de prose, de récits de voyage, de photos. Et c'est fait comme un vrai carnet de voyage avec des photos découpées, mixées, collées, des bouts de tape. Et il est vraiment magnifique. D'ailleurs, c'est le seul des livres que j'ai produit entièrement en couleur, mais je ne pouvais pas le faire autrement. Il est vraiment superbe. J'ai été approché aussi, mais ça ne s'est pas conclu, par un Français qui travaillait avec des personnes trisomiques. Et il y avait un photographe d'art qui était venu prendre des photos des enfants trisomiques. Et c'était tellement touchant, c'était tellement beau, c'était tellement drôle, mais malheureusement, on ne s'est pas entendu, on n'a pas conclu, mais j'ai toujours cherché à faire ce genre de projet-là.
Toucher autrement.
Voilà. C'est bien.
Oui, parce que votre maison d'édition, effectivement, vous êtes vraiment spécialisé dans les poèmes et les nouvelles. Vous avez vraiment fait, vous en avez fait votre spécialité.
Oui, parce que je vais dire que en tant qu'auteur, je sais parler de ce que je connais, puis je peux apprécier ce que je connais, je peux m'améliorer là-dedans, puis je peux conseiller des gens aussi au besoin. Donc, ça fait de moi, je suis un entrepreneur doublé d'un auteur, ce qui fait de moi, je pense, un assez bon éditeur. Et, mais ça me permet de déceler chez les gens les bons projets. Si on m'envoie un roman, je maîtrise moins ce genre littéraire-là, ou du théâtre, j'aime beaucoup le théâtre, mais je maîtrise moins bien ce genre-là, donc je me sentirais moins à l'aise d'éditer ce genre de littérature-là.
Parce que ce serait difficile pour vous d'y jeter un œil critique, en fait.
Je serais peut-être mauvais juge, oui, ou mauvais conseiller, puis je ne rendrais peut-être même pas service à l'auteur en publiant quelque chose qui me plaît à moi, mais qui n'est pas vendeur, qui n'est pas vendable ou qui n'est pas bien écrit, là.
Qu'est-ce qui vous a, parce que la maison d'édition existe depuis plusieurs années, qu'est-ce qui a marqué particulièrement toutes ces années d'édition?
Alors, il y en a eu plusieurs, mais je retiens deux coéditions avec l'Association francophone de Haïku. C'est une association très, très établie, très bien établie, très influente dans le milieu. On connaît Jean Antonini pour avoir été cité dans de nombreux ouvrages. Actuellement, il s'occupe encore de l'Association francophone de Haïku. Il a été un peu mon mentor aussi dans les années où j'ai été approché pour faire une première coédition avec eux. En fait, ils cherchaient un éditeur en Amérique du Nord. Et à chaque fois qu'on a fait les éditions ensemble, les deux fois, j'avais une exclusivité pour l'Amérique du Nord et eux pour le restant de l'Europe. Ça a toujours été un franc succès. Le premier qu'on a fait, d'ailleurs, c'est le fun que vous en parliez, c'est Jour d'école. C'est un livre qui a été fait à la suite d'ateliers dans les écoles primaires et secondaires. Il y a beaucoup d'ateliers que moi, j'ai préparés avec des étudiants.
Ici au Québec?
Oui, ben, ça a été fait en France, en Belgique, en Suisse et au Québec. Et tout ce qui a été produit au Québec, c'est des ateliers que moi, j'ai donnés parce que j'étais le seul représentant. Mais dans le livre, sur à peu près 300 poèmes, il doit y en avoir une soixantaine à peu près qui sont du Québec, d'auteurs adultes et d'enfants. Et il est à peu près impossible de les dissocier. C'est vraiment le fun parce qu'après ce livre-là, je me suis rendu compte que c'était un art qui était très accessible. Et j'ai continué de donner des ateliers dans les écoles primaires. Mes enfants ont eu la chance de m'avoir dans leur classe aussi pour donner ces ateliers, c'était vraiment le fun.
Les ateliers de Haïku?
De Haïku, oui. Oui, oui. Et la particularité de Jour d'école, c'est qu'il a été enregistré en studio. Donc, il y avait un des auteurs qui travaillait pour une radio, la radio Plein Ciel, je crois, en France, et qui s'est proposé, lui, avec sa superbe voix radiophonique vibrante et caverneuse un peu, de se mettre à lire ces 300 poèmes-là, c'est vraiment fantastique, c'est rafraîchissant. Donc, ce livre-là, il a été vendu avec un disque. Et je sais qu'ici, vous faites de la traduction comme ça, ou de l'enregistrement de livres. Alors, ça valait la peine d'être souligné, parce que j'ai eu cette expérience-là aussi, puis c'était vraiment formidable.
Il nous reste à peine quelques minutes, et je souhaiterais qu'on ait d'autres haïkus. On peut vous joindre comment pour mettre la main sur certaines choses?
Le plus simple, c'est toujours par mon site internet, donc René au féminin clairon.ca, RENEECLAIRON.ca.
Et un dernier haïku avant de se quitter.
Un dernier haïku.
On entend la musique déjà.
Bon, alors allons-y avec un extrait du haïku à la lumière du braille. Mon livre d'histoire, au moins 10 fois plus épais. Ah, la cécité. Mon livre d'histoire, au moins 10 fois plus épais. Ah, la cécité.
Pascal Govart, merci infiniment d'être passé
merci
à notre
à vous.
Micro. Voilà, c'est déjà tout pour notre édition de Regards sur le monde pour cette semaine. Bonne semaine, mesdames, messieurs. Demeurez à l'écoute de Canal M.